La parasha cette semaine, c'est parashat Vaikra. On commence le troisième livre qu'on appelle le livre de la pureté. Parce que tout ce livre, la majorité de ce livre, il parle de sacrifices, de choses pures. Et d'ailleurs, à la yeshiva, quand on commence à enseigner des petits-enfants, on commence par ce livre, le troisième. On ne commence pas par Bereshit. On commence par le troisième. Pourquoi ? Parce que c'est un livre pur. Et les enfants sont purs, alors qu'il vient le pur et il étudie quelque chose qui est pur. Alors tout ce livre, c'est vrai, vous n'allez pas vraiment peut-être comprendre, à moins que vous lisez les traductions, les commentaires, c'est un peu difficile de compréhension ce livre. Mais en vérité, c'est très beau aussi, c'est bien de savoir, parce que le Hafetz Chaim et des autres grands rabbins disaient, il faut qu'on commence à se préparer. Parce que quand Mashiach viendra, tu ne peux pas commencer à chercher dans le livre qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce, dans tel cas. Il faut que tu saches plus ou moins qu'est-ce qui nous attend, parce que si on attend la construction de la chambre du troisième temple, il faut que tu saches pour telle chose tu apportes le sacrifice, pour telle chose autre sacrifice. Alors en vérité, tous ces sacrifices qui sont mentionnés dans le troisième livre, des fois on n'a pas envie de les étudier parce que ça nous, comme si ça ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas le temple, mais au contraire. Plus qu'on avance, plus qu'on est proche à la délivrance, et plus qu'on doit savoir ce loi. Et en Israël, vous savez qu'il y a tout un institut qui est monté. Cet institut, c'est plutôt un collège pour Kohanim. Tout le Kohanim utilise son collège. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand le temple, le troisième temple, il va descendre du ciel, on n'a pas le temps de commencer à ouvrir le livre et chercher qu'est-ce qu'on fait. On doit commencer le service depuis jour 1. Dès que le temple descend du ciel, il faut commencer à faire le service. Tu ne peux pas commencer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans tel cas? Il faut que tout le monde, nous soyons prêts. C'est pour ça qu'il y a des Kohanim aujourd'hui qui apprennent toutes les lois sur le, au détail, sur tout le détail possible, pour que dès que le Mashiach viendra et le temple descendra, ils pourront faire, et le premier jour déjà, ils pourront commencer le service. Alors dans la page d'aujourd'hui, Vaikra et Moshe. Akosh Bokhu qui a appelé Moshe, explique le Zohar à Kadosh, Rabbi Shon Bar Hai explique pourquoi la paracha commence de telle forme. Il a appelé Moshe, parce que jusqu'à date, on a parlé de la construction du temple. Et à la fin de la semaine, la paracha de la semaine dernière, c'est écrit qu'il y avait un nuage qui a couvert le temple. Et personne ne pouvait s'approcher, même pas Moshe Rabbeinu. C'était un nuage qui a dit que personne ne s'approche. Une fois que Akosh Bokhu a décidé que c'est le temps d'ouvrir le temple, que les gens, le Mishkan, que les gens viennent, le premier qui a été appelé, c'est Moshe. Alors, Vaikra et Moshe. Il a appelé Moshe, maintenant tu peux rentrer. Normalement, le service du temple se fait par des Kohanim. Mais la Gemara explique que durant les 7 jours d'inauguration du temple, le service s'est fait par Moshe Rabbeinu. Durant 7 jours, la première semaine d'inauguration de tout le service, de mettre l'huile sur l'ustensile, d'inaugurer le temple, d'inaugurer l'autel, d'inaugurer tous les ustensiles, ça c'est Moshe Rabbeinu qui a servi 7 jours. Et le 8e jour, c'est là qu'Aaron et ses enfants sont rentrés en service. Alors Moshe a été appelé, il lui dit, voilà Moshe, tu as travaillé, tu as fait tout ce qu'il faut, alors tu seras le premier à appeler de rentrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit après, je coupe en commandement dans la paracha, au début de la paracha, Adam qui akriv mikem korban, un homme qui apportera un sacrifice parmi vous, voilà qu'est-ce qu'il faut apporter comme sacrifice. La Gemara et le Midrash, ils expliquent, Adam, quand vous allez apporter un sacrifice, il faut que vous soyez comme Adam. Quel Adam on parle? Adam. Adam Arishon, le premier homme sur terre, c'est ça le type de sacrifice que vous devez apporter. Rachid dit, quel type? C'est quelque chose qui n'est pas volé. Une personne ne peut pas voler de l'argent et aller acheter une bête, un animal pour l'apporter comme sacrifice. Comme Adam Arishon, tout lui appartenait, tout le monde lui appartenait, et quand il a apporté son sacrifice à lui, parce qu'Adam aussi l'a apporté un sacrifice, quand il a désobéi, lui et Chava ont désobéi le commandement d'Hachem de ne pas toucher à l'arbre de la sagesse qui était interdit de manger de ses fruits, ils ont désobéi, à cause de quoi a dit tout de suite, alors dans ce cas, vous allez apporter un sacrifice, et Adam il a apporté un sacrifice. Quel type de sacrifice est-ce qu'Adam il a apporté? La Gemara nous explique, par Makrin Mafris, un taureau unicorne. Dans des livres et dans des films, il y a beaucoup d'unicornes. Mais ils font ça sous des chevals. Mais ce n'est pas le cheval. L'unicorne existait. Mais ça existait, c'était un taureau. Il y avait un seul au monde. Il y avait un seul. C'est Adam Arishon qui l'a apporté. Et après ça, il n'y a plus. Et pourquoi il y avait un taureau unicorne? Alors là, on va expliquer quelque chose. Pourquoi apporter un taureau? Quand quelqu'un fait un péché, pourquoi il doit apporter un taureau? Le taureau, comme vous remarquez, il a deux cornes. Et nous avons deux tables de la loi.
quand quelqu'un fait un péché, il faut qu'il comprenne qu'il transgresse le deux tablettes. C'est ce qui est écrit sur le deux tables, qui veut dire quoi? Des personnes, ils peuvent dire des fois, quand tu fais une faute envers Hachem, par exemple, de ne pas voler, d'omettre le nom d'Hachem en vain, qui est le deuxième commandement. Alors tu dis, qu'est-ce que je fais? J'ai transgressé rien que le un côté, parce que le tablette, comment elles sont formées? Il y a cinq commandements à droite, cinq commandements à gauche. Les cinq commandements à droite parlent de la relation entre l'homme et son créateur. Tu n'auras pas un autre Dieu, tu omettras pas le nom de Dieu en vain, et ça, tu te prosterneras pas devant un autre Dieu. Même le cinquième qui est respecté ses parents, c'est respecté Hachem. Même le cinquième qui parle de respecter ses parents, c'est respecter Hachem, parce que Hachem, s'il n'aurait pas donné la neshama à une personne, même si ses parents l'ont formé et ils lui ont donné un corps physique, sans la partie d'Hachem, ce corps ne vaut rien. Alors c'est directement respecter Hachem en respectant ses parents. Alors une personne qui dit, moi j'ai transgressé un commandement qui a à voir entre moi et l'Éternel. Qu'est-ce que ça a à voir avec les autres commandements? De ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, c'est ça, de ne pas prendre la femme de l'autre. Ça, c'est des commandements qui ont à faire entre l'homme et son prochain. Dis Hachem, non. Le deux vont ensemble. Quand tu n'es pas bien envers Hachem, sache que tu fais du mal aux autres. Et quand tu fais du mal envers des autres, automatiquement, tu n'es pas bien envers Hachem non plus. C'est pour ça que nous, quand nous apportons un sacrifice, c'est un taureau qui a deux cornes. Pour dire que tu as encorné le deux tablettes. Ça veut dire, et celui qui a la relation avec l'homme et son créateur, et la tablette qui traite de la relation entre l'homme et son prochain. Mais Adam Arishon, quand il a fauté, en désobéissant à Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Hachem. Il n'y avait pas de table de la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la relation entre l'homme et son prochain, il n'y avait personne. Il était seul au monde. Alors quand il a désobéi que envers l'Éternel. C'est pour ça qu'Akash Rouhou lui a créé un animal spécial, une icorne, pour dire que toi, tu n'as pas besoin d'un animal avec deux cornes, parce que la relation entre l'homme et son prochain n'existe pas. Il n'avait même pas encore deux enfants. Alors, il n'y avait rien sur terre, que lui et sa femme. Alors, c'est pour ça que lui, il a apporté un unicorne, et c'est on dit que Adam qui a créé le corban. Dit le Midrash, quand vous apportez un sacrifice, faites-le comme il a fait Adam. Qui veut dire? Quand un homme fait un péché, le Ktav Sofer, un des commentateurs de la Torah, il explique quand quelqu'un fait un péché, on a toujours tendance à chercher qui c'est le fautif. On n'est jamais le fautif. On ne se dit jamais le fautif. Il y a toujours une cause. C'est quoi la cause? Le Ktav Sofer explique, par exemple, il y a des gens qui disent, ah, c'est mes parents. Ils m'ont donné ces mauvaises qualités. Il y a des gens qui ont tendance à voler. Mais ils ne disent pas qu'ils sont des voleurs. Ils disent, je suis né avec ce mazal de voler. C'est ça, il y a des gens qui ont la tendance de mentir, mais ils disent pas que c'est eux. Ils blâment toujours leurs parents qui leur ont donné ces caractères de mentir. Une personne, c'est vrai qu'elle est née avec certains caractères, mais c'est à lui à travailler sur ses traits de caractère et les changer. Alors c'est vrai, tu peux être né voleur, tu peux être né menteur, tu peux être né tueur. Mais là, c'est pour ça qu'on est venu au monde, pour changer ses traits de caractère. Mais une personne qui fait une faute, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas ma faute, moi je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Alors il blâme en vérité, il blâme ses parents. Ou une personne qui a fait quelque chose d'autre, ah c'est l'autre qui m'a instigé, c'est l'autre qui m'a poussé à faire ce péché. Tu es jamais le fautif. Dit le Ktav Sofer, Adam, quand Adam, il a fait la faute, est-ce qu'il avait quelqu'un à blâmer? Il pouvait blâmer personne, il n'avait pas de parents. Il a été la création parfaite d'Hachem. Il n'avait pas de parents à blâmer pour des traits de caractère, parce que lui était parfait. En traits de caractère, il était parfait, parce que c'est Hachem qui l'a créé. Il n'avait pas des amis qui l'ont poussé ou instigé à faire la faute, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait que lui et sa femme. Et sa femme est considérée comme lui. C'est pas une autre personne, la femme était comme lui. Il n'avait pas Yetzer Hara, il n'avait pas le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant n'existait pas à l'époque. Le mauvais penchant, c'était le serpent qui était en dehors de la personne. Aujourd'hui, après la faute, la différence c'est quoi? Après qu'il a mangé de l'arbre, le Yetzara est rentré en lui. Là, le Yetzara te pousse à faire le péché. Mais à l'époque de Adam, le Yetzara était en dehors de lui. C'était le serpent. Et le serpent pouvait parler d'ici jusqu'au demain. S'il ne voulait pas l'écouter, il n'était pas aussi fort comme si aujourd'hui qu'il est à l'intérieur de nous. Alors il ne pouvait pas blâmer non plus son Yetzara, son mauvais penchant. Alors il n'avait à blâmer personne. Quand il a apporté son sacrifice à Adam, à qui il a blâmé? Il s'est blâmé lui-même. Alors on te dit, Adam qui a créé Corban, quand un homme doit apporter un Corban, fais comme Adam. Comme Adam n'a pas cherché à blâmer des personnes, malgré qu'il n'avait pas à qui blâmer, mais il n'a pas cherché, toi aussi ne cherche pas à blâmer tout le monde sauf toi-même. Il faut que tu te blâmes toi-même. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, si on fait le pont entre le début et la fin vers la fin de la paracha, il nous parle d'un président de communauté ou d'un prince de chef de communauté, des choses comme ça. Il dit « Asher nasi echeta » quand un prince ou un chef de communauté faute. Et voilà son sacrifice. Et la Gemara prend le mot « Asher » quand un prince faute. Acheré, heureux, le prince qui admet sa faute. Qui veut dire que même s'il est au niveau d'un prince, même s'il est très haut niveau, il ne cherche pas à dire « Ah, c'est les autres qui m'ont causé ». Il dit « Echeta, c'est moi qui a fauté, c'est moi qui dois apporter le sacrifice ». Alors, quand « Asher Nasi Echeta », si on prend l'acronyme de ces trois mots, « Asher Nasi Echeta », c'est le mot « Ani », c'est le mot « Moi ». Il ne cherche pas à blâmer les autres, c'est moi qui a commis la faute et c'est moi qui dois apporter le sacrifice. La chose est, normalement, les gens, quand ils utilisent le mot « ani », moi, ils utilisent ça pour l'orgueil. Ici, le nasi, le prince, utilise ça pour l'humilité, au contraire, c'est moi qui a fait. En quoi l'orgueil? Normalement, nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot « moi ». C'est ça? Comment la Torah dit quand le grand sadikim répondait à Hachem? Oui, on ne dit pas « oui, c'est moi ». « Ineni ». Voici, je suis. Voici. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis prêt à faire. Il y avait une histoire avec le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, une fois, il est parti voir son maître. Il a tapé sur la porte. C'était le soir, il a tapé sur la porte. Et le maître a posé la question, qui c'est? Il a dit, c'est moi. Il ne lui a pas ouvert la porte. Ah, il tape une deuxième fois. Qui c'est? Il dit, c'est moi. Il ne lui a pas ouvert la porte. Troisième fois, il tape. Il dit, qui c'est? Il a dit son nom. Là, il a ouvert la porte. Elle dit, pourquoi tu m'as pas, vous ne m'avez pas ouvert? Non, je n'ai pas entendu. Donc, ils ont parlé. Après, il lui dit, écoute, demain, j'ai une Brit Mila dans une ville. Mais je ne peux pas aller. Alors, tu vas me représenter, tu vas aller à ma place. Et le Baal HaTanya était d'accord, il représentait son maître. Mais quand il est arrivé dans la ville, là où personne ne le connaissait, il ne savait même pas qu'il représente le Rav. Alors, on l'a fait asseoir quelque part. Et ils ont fait la brite, ils ont fait le repas, et tout le service, tout le couvert qui était en argent. Et là, au milieu du repas, il y a un serveur qui crie, il me manque une fourchette en argent, il y a quelqu'un qui l'a volé. Et là, il a pointé sur le Baal HaTanya. Il dit, ça doit être lui, le nouveau là, c'est lui qui l'a volé. Et l'autre, il dit, c'est pas moi, c'est pas vrai. Et il dit, non, cherchez dans ses poches, vous allez trouver. Là, il voit un rabbin quand même. Malgré que c'était un étranger, mais je voyais un rabbin. Et le rabbin disait, vous savez quoi, au lieu qu'il me blâme à moi, on va chercher dans ses poches à lui, de ce serveur. Quand ils ont cherché dans les poches du serveur, ils ont trouvé la fourchette. C'est sûr qu'il a eu sa punition, mais quand même il a eu de la honte devant tout le monde quand on l'a blâmé d'un vol. Il retourne et son maître lui dit, alors comment c'était? Il dit, de la honte. J'ai jamais été un Brit Mila comme ça, et vraiment je ne sais pas pourquoi vous m'avez envoyé. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a raconté l'histoire. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, oui, je lui ai dit, c'est pas moi. Il dit, voilà, c'était ton tikkun. Quand tu es venu chez moi, tu as dit deux fois sur la porte, c'est moi. Tu sais qui c'est qui peut dire c'est moi? Le seul au monde, c'est Hachem. Dans la Haggadah qu'on va dire Pessah, c'est écrit, Ani Hachem, Ani Hu Velo Acher. Moi seul, je suis moi, l'éternel, moi et pas d'autre. Personne ne peut dire moi. Le moi n'existe pas. Mais le nasi, au contraire, qu'est-ce qu'il dit le nasi, le prince? Il dit, oui, c'est moi qui a fauté. Quand il s'agit d'une faute, oui, il faut dire c'est moi. Mais quand il s'agit de recevoir des médailles, des choses comme ça, il ne faut pas dire moi. Il faut laisser et le kavod, il va venir de lui-même. Donc, alors ça, c'est le sacrifice. Alors, comment expliquer? Les sacrifices, ils viennent pour purifier un homme. Et dans le sacrifice, il y a des lois spéciales. Quand on fait un sacrifice, il y a deux types de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle Kodashim, Kodashim, des sacrifices sacrés. Mais il y a ce qu'on appelle Kodashim Kalim. Ils sont sacrés, mais ils sont Kalim. Kalim, si on doit traduire en français, c'est léger. Qui veut dire la différence, c'est quoi? Un type de sacrifice, Kodashim, Kodashim, on doit manger à l'intérieur du temple. L'autre type de sacrifice, qui est Kodashim Kalim, on peut manger à l'extérieur du temple, mais dans la région de Jérusalem. Et à l'époque, Jérusalem était entourée d'un mur. On ne pouvait pas sortir de ce mur. Tu peux manger partout à Jérusalem, pas en sortant du mur. Ça, c'est Kodashim Kalim. Les autres, c'est Kodashim Kadashim. Par exemple, nous avons un sacrifice qui s'appelle... Il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a un sacrifice qui s'appelle Khatat. C'est quoi Khatat? Khatat, comme son nom indique, Khet, péché. Quelqu'un qui a commis un péché, il doit porter Khatat. Par exemple, transgresser le Shabbat. Il a par ignorance. Par exemple, il est arrivé sans faire attention de toucher la lumière, et de l'allumer ou de l'atteindre. Il n'a pas fait exprès. Il s'est penché sur le mur et malheureusement, c'est fermé ou c'est ouvert. Dans ce cas, le lendemain de Shabbat, il doit venir au temple et apporter un sacrifice qui s'appelle Khatat. Ça, ou pour tout autre péché qu'il ne savait pas, il a fait par ignorance. Il y a des autres sacrifices. Par exemple, il y a un sacrifice qui s'appelle Hacham. Le Hacham, il vient sur un doute. Hacham Taloui, qui veut dire quoi? Tu as fait quelque chose, mais tu n'es pas sûr est-ce que je fais le péché ou pas. Est-ce que c'est vraiment un péché que j'ai fait ou pas? Et quand tu demandes, tu n'as pas tout le détail. Alors même si tu demandes un rabbin, le rabbin ne peut pas t'aider pour te décider si tu as fait un péché ou pas. Dans ce cas, tu apporteras un sacrifice qui va expier jusqu'au temps qu'on trouve la vérité ou l'exactitude de l'acte. Tant qu'on ne le trouve pas, il reste avec son acham taloui. Mais le jour qu'il va le trouver, qu'est-ce qu'il a fait exactement? De là, il apportera le acham vadaï ou le khatat, dépendamment de sa faute. Après, il y a un sacrifice de remerciement. C'est quoi le sacrifice de remerciement? Le sacrifice de remerciement, c'est quelqu'un qui a fait un voyage. Il a traversé la mer. Il était alité 3 jours. Il ne pouvait pas bouger. Il était en prison. C'est ça? Ou il a traversé le désert. Alors, dans ce cas, il faut qu'il vienne en temple après son voyage ou après sa maladie. Et il apporte un sacrifice qu'on appelle Korban, Toda, un sacrifice de remerciement. Aujourd'hui que nous n'avons pas le temple, ce sacrifice a été remplacé par quoi? Par une prière qui s'appelle la prière du Gomel. La prière du Gomel, c'est exactement ce sacrifice. Mais quand tu auras le temple, tu viendras au temple et tu apporteras ton sacrifice qu'on appelle sacrifice Korban, Korban Toda. Après, il y a la femme qui vient d'accoucher. La femme qui vient d'accoucher, elle a le devoir d'apporter 2 tortereaux ou deux écailles. Une pour Khatat, une pour Toda. Deux cailles. Une pour Khatat et une pour Toda. Et elle apporte ça comme sacrifice. Il y a, la Torah donne aussi la chance aux pauvres qui n'ont pas le moyen pour acheter un taureau. Ou ils n'ont pas le moyen d'acheter même pas des oiseaux. Alors ils apporteront la farine. Et pour Akash Bokhu, la farine, c'est exactement comme un bœuf. C'est ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de moyens, c'est pas le sacrifice, c'est d'avouer son péché. Pour Akash Bokhu, avant que tu arrives au temple, si tu n'admets pas, si tu apportes un sacrifice rien que pour te débarrasser de ton péché, ça ne sert à rien. Akash Bokhu, pour Akash Bokhu, c'est admettre sa faute et venir remercier et donner son, et payer son devoir envers Hachem. Il y a aussi des sacrifices qui sont des sacrifices publics. Par exemple, le 2 brebis, une qui vient le matin, une qui vient le soir. Le taureau le jour du Kippour. Il y a plusieurs sacrifices. Alors vraiment, dans le sacrifice, dans ce livre, Bezrat Hashem, on va apprendre à propos beaucoup de sacrifices, de types de sacrifices, les situations sur lesquelles on doit apporter un sacrifice et comment et le nombre de sacrifices qu'il faut apporter dans chacun. Alors, le sacrifice, ils ont quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'ils ont en spécial? C'est quand, si on prend la khatat, le sacrifice khatat, quand tu l'as cuit, même si tu l'as cuit dans le temple, l'ustensile dans lequel tu as cuit le khatat, il n'est plus réutilisable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser le même ustensile pour 2 différentes personnes, parce que quand on cuit un sacrifice dans l'ustensile absorbe le goût du sacrifice, mais ce sacrifice appartient à quelqu'un. On va dire, il s'appelle Reuven. Ce sacrifice appartient à Reuven. Quand Shimon, il vient, et on veut cuire pour lui son sacrifice à lui, on ne peut pas cuire dans le même ustensile. Pourquoi? Parce qu'il y aura le goût de l'autre sacrifice, et les deux goûts ne peuvent pas se mélanger. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Il faudra faire l'Agala. C'est ça. Maintenant, la Torah nous explique, c'est pas toujours que l'Agala est possible. Par exemple, l'ustensile, la marmite avec laquelle on a cuit le sacrifice qui était en argile, c'est en argile, il faut la briser. Elle n'est plus réutilisable ni cachérisable. Mais s'il est en acier, c'est ça? Alors, umurak veshotar bamaim. Vous allez la laver avec de l'eau et là, elle est cachérisable, ça veut dire elle a été cachérisée, elle est réutilisable pour une autre sacrifice. Aujourd'hui, Bézat Hashem, on va essayer de toucher un peu de loi de Pessah qui concerne la cachérisation dans la cuisine, tout ce qui est à voir dans la cuisine. Avant cela, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. On a parlé la semaine dernière, on a parlé de loi de produits, sur le produit de Pessah. Sur le produit de Pessah. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'ai fait une petite recherche aujourd'hui aussi. Tout d'abord, tout le canette qui contient de, par exemple, la chose la plus recherchée sur le marché, je crois que si quelqu'un achète un conteneur de ce produit, il va s'enrichir en rien du tout, c'est les petites pommes de terre. Tout le monde cherche ce produit. Bon, c'est bon. Maintenant, il faut comprendre ces canettes qui contiennent de pommes de terre. Il y a un problème, pas seulement pour Pessah en plus, mais pour l'année longue. Ce produit est obligé d'avoir une cacheroute pour l'année longue. Ne fais pas compter sur eau, sel et acide ascorbique. Ça ne veut rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont trouvé que même si ça contenait de l'eau et de sel et de l'acide ascorbique qui provient de citrus ou des autres choses, ça ne veut rien dire parce que où ça a été emboîté, sur quelle machine ça a été emboîté. Qui veut dire, il y a des tanks. Et dans ce tank, tous ces pommes de terre, ils sont bouillis. Parce qu'il faut les bouillir au tiers de leur cuisson. Pour qu'ils puissent vous le vendre, ils ne peuvent pas donner cru. Ils le bouillent au tiers de la cuisson. Après, ils l'emboîtent. Des fois, ils cuisent quand c'est déjà dans la boîte avec de l'eau. Maintenant, il faut comprendre que le tank sur lequel ils emboîtent ces pommes de terre ou n'importe quel autre légume, ça peut être des cardes, ou le salsifis, ou tout ce truc, c'est ça, toutes ces choses-là. Le produit est cachère, l'eau et sel, acide ascorbique, c'est cachère. Le seul problème, le temps qui n'est pas cachère. Ils ont trouvé déjà que quand une compagnie a une grosse commande, ils n'arrivent pas à fournir la commande, ils vont l'envoyer dans des autres compagnies qui font même de la viande. Alors c'est vrai, le sticker, c'est la compagnie telle qui le vend, mais où ça a été fabriqué? C'est pour ça, OSL, ce n'est pas valable. Même le Vadaïr, ils sont pas d'accord. C'est vrai que sur certaines étagères, ils existent encore, mais c'est sans la supervision, ça veut dire, sans la permission, on va dire, de ceux qui donnent la cache-route au magasin. Ça, c'est un. Numéro 2, pour Pessah, c'est encore plus grave, parce que l'acide ascorbique peut être hametz. Dans l'acide ascorbique, il peut avoir du hametz. Ou l'acide citrique. Ça peut être de graines de blé. Ça peut venir de graines de blé. Oui, c'est vrai que Rav Ovadia Yosef, il dit qu'à la rigueur, on peut l'accepter. Mais pourquoi accepter a posteriori quand on peut faire des choses a priori? Pour l'année longue, quand il y a un cacheroute, sans le Pessah, M-K-O-U, il y a le A-K. Hein? Il y a un cercle, et dans le cercle, il y a le AK, c'est la cacheroute d'Argentine. Très bon cacheroute aussi. C'est un bon cacheroute. C'est le Cédar. Je crois que la compagnie Cédar ou la compagnie. Il y a tout. C'est ça, le AK, c'est bon. C'est ça. N-A, avec le K, c'est un cacheroute qui vient de l'Argentine. Ils sont bons. Ils sont bons. C'est ça? Maintenant, ça c'est pour l'année longue. Mais pour Pessah, il faut absolument avoir le P. Parce que même si dans la cacheroute pour l'année longue, c'est pas toujours vrai que c'est pour Pessah cachère. Alors aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé que sur certains magasins, ils écrivent toujours c'est cachère le Pessah, ils vont ce produit. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'ils trompent le public, c'est assourd, parce que ça peut être hametz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est sa responsabilité. Non, c'est la vôtre. Vous devez savoir que normalement, si ces produits ne sont pas sur une liste sur laquelle ils sont autorisés sans le P, automatiquement, ils rentrent dans la catégorie du hametz. Si dans aucune liste, ils sont dans la catégorie du kasher, automatiquement, ils rentrent parce qu'on ne sait pas. La production d'alimentaire aujourd'hui, elle est très complexe. Des choses qui paraissent très innocentes, ils sont complexes. Parce que même le sel, c'est ça. Même dans le sel, il y a du hametz. L'acide ascorbique, le dextrose, c'est pas du hametz. C'est ça? Alors, il faut savoir. Comment? Je ne sais pas, la vérité, je sais pas. Ça ne veut rien dire, s'il faut voir les ingrédients. Impossible, il doit avoir. D'abord, c'est un sel gros, je sais quoi, c'est un sel. Fin? Si ça ne dit pas cacher le Pessah, il ne faut pas le consommer. C'est un risque que vous prenez. C'est un risque. Alors, pour dire que cela, il ne faut pas jouer avec. Une autre chose.
Les tomates, il faut qu'ils aient caché le Pessah.
Tout. Tout. Qu'est le Pessah. Tout. Tout. Le tomate en boîte.
En boîte.
Toutes les boîtes de conserve. Tout le bois de conserve, tout le bois de conserve, OSL, acide ascorbique ou acide citrique. La même chose, la même chose. Le truffe vient de Maroc, avec une certaine cacheroute, mais j'ai expliqué, moi je ne connais pas cette cacheroute. Alors c'est à vous appeler le Maroc et demander qui c'est qui est derrière cette cacheroute, mais en vérité je ne connais pas qui c'est qui. Les olives, la même chose, c'est ça, avec un petit sticker, tout petit. C'est ça. Mais si vous remarquez, comme j'ai expliqué la dernière fois, le mot kasher, le Pessah, a d'abord été écrit un peu d'une manière bizarre. Donc c'est des Arabes, alors on ne peut pas leur blâmer, c'est ça. Mais
non, il doit avoir des...
Bon, de produits, je vais vous donner le temps... Que... Bon, la dernière, mais je vais vous donner... Est-ce qu'il y a son nom sur le don?
Vous avez vous le label de Rabbin Banon? On ne le connaît pas.
Oui, le Rabbin Banon, il fait une chose.
Oui.
Il fait une chose, c'est l'huile de canola. C'est la seule chose qu'il produit ici.
C'est tout.
Il y a son nom qui est porté. S'il fait quelque chose, il y aura son nom. Et la seule chose qu'il fait, c'est l'huile de canola. Il y a son nom là-dessus. Alors au Maroc, il n'est pas parti au Maroc pour le faire. Alors c'est ceux qui disent, tant que son nom ne figure pas, il n'a pas pris responsabilité. Un rabbin qui met son nom sur un produit, il a pris de la responsabilité. Ça veut dire qu'on compte sur lui, il faut qu'il soit quelqu'un qui prend une certaine responsabilité. Alors, tant qu'il n'y a pas, ça veut dire que c'est écrit cacher le Pessah, qui c'est qui cachérise le Pessah? Les truffes, c'est écrit cacher le Pessah, mais qui c'est qui a dit que c'est cacher le Pessah? Est-ce qu'à cause que lui dit que c'est de l'eau et truffe et eau et sel, ça ne veut rien dire? Ça ne veut rien dire. Alors, vous n'allez pas manger 8 jours le truffe, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein de choses à manger, ce n'est pas que ça qui manque. Bon, le sucre, on a dit qu'il n'y a pas de problème, l'antique, un cas régulier, c'est cachère, nouveau sac, avant Pessah, pas durant Pessah, je pense que... Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Red Path. Le Red Path, ils sont MK. S'ils sont MK pour l'année longue, ils sont cachères. Bon, on va laisser le temps pour la dernière. Alors j'ai expliqué, oui, j'ai expliqué l'huile de canola, c'est un peu plus délicat. Parce que l'huile de canola, le grain de canola, ils sont plantés dans un champ de blé. Pour reposer le champ de blé, on plante le canola. Ça repose le champ parce que ça prend moins de force de la terre. Maintenant, il y a une chance, 1 sur 5000, de trouver un grain de blé dans le canola. 1 sur 5000. Maintenant, c'est vrai que 1 sur 5000, c'est beaucoup, mais qui c'est qui veut prendre cette chance? C'est ça? Alors, ils disent, on ne veut pas prendre une chance. Alors, il y a une permission, je vous dis, il y a une permission. Il y en a qui disent, si on l'achète avant Pessah, en cas qu'il y avait, ça s'annule. Il y a une permission comme ça. Mais si vous avez le même prix, le même produit, avec un sticker caché, que Rabbanon il fait, caché le Pessah, pourquoi pas l'acheter déjà prêt avec le... L'huile de tournesol est cachère et l'huile de mazola est cachère. Bon, maintenant regardez, le dernier produit, et après je laisserai de temps à des questions. Ce n'est pas vraiment le cours aujourd'hui, le produit, parce que ça c'est une question qui a été aujourd'hui. Et c'est un fait frustrant, parce que le marchand se fonde au rabbin. Le marchand, ce n'est pas un rabbin. Il peut dire n'importe qui ce qu'il veut. Lui, il veut s'en faire son argent. Et Pessah, c'est un temps de faire d'argent. Et ça, alors il faut comprendre. Des fois, on lui demande, il dit que c'est cachère, on achète. Il ne faut pas acheter parce que cette question qui est arrivée aujourd'hui, le marchand disait que c'est cachère, or que le va d'ailleurs qui lui donne la tiouda, il dit que c'est pas cachère. Alors ils l'ont appelé, mais pour dire où est-ce qu'on est avec ça. Il faut faire attention, il faut jamais dire, il faut jamais poser la question à celui qui vend, parce qu'il a un seul intérêt de vendre. Et à moins qu'il est grand sadique, il a des autres intérêts. La dernière question, c'est le cumin. Le cumin. Maintenant j'ai expliqué, je n'ai pas encore le nom, moi je conseillerais d'acheter le cumin que d'Israël. Parce que là-bas, il faut attention, comme je vous ai expliqué, il y a du mélange de graines d'avoine dans l'œil humain. Maintenant, il se ressemble tellement, à moins que vous êtes de bons connaisseurs, à moins que vous êtes de vrais connaisseurs, vous n'allez pas faire la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du cumin qui vend souvent le marché. J'ai fait une petite recherche aujourd'hui. Tout le cumin qui sur le marché maintenant, à part ceux qui viennent d'Israël, ils sont fabriqués en Égypte, dans des pays arabes. C'est cachérisé par le OU, mais ce n'est pas le stamp de OU qui est là-dessus, c'est des stamps des autres magasins. Alors, il y a un magasin, c'est le COR, qui vient de Toronto. Mais non, même le COR, je leur demandais la question, ce n'est pas eux qui les fabriquent, ce n'est pas eux qui les surveillent. Ils reçoivent ça dans des vracs déjà molus.
Alors, pourquoi ils mettent leur temps?
Parce qu'ils ont reçu ça de OU, ils ont mis leur stamp et ils ont envoyé ça dans le magasin. Maintenant, le OU, ils ont fabriqué ça dans des autres places. Maintenant, quand je demandais, est-ce que le Mashgiach, il est qualifié pour connaître la différence, ils me répondent, on fait attention que la machine est bien lavée. Mais la question n'est pas répondue. Mais est-ce qu'il est qualifié pour savoir la différence entre les grains? Ça, c'est pas répondu encore clair. Qui veut dire que l'OU prend la responsabilité. Mais le cumin, on ne peut pas jouer avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la règle des 60 qui joue ici. Parce que quand c'est moulu, les morceaux sont entiers. C'est rien que moulu, c'est des poudres. Mais la poudre, elle existe. C'est pas quelque chose qui a été mélangé, il a perdu sa substance. C'est quelque chose qui existe devant vous. Ça, la règle des 60 n'existe pas ici. Alors, j'aurais pas acheté le cumin sur le marché, sauf celui qui vient d'Israël. L'année dernière, il y avait la marque Tavliné Cohen, les épices de Cohen. Cette année, ils sont pas encore sûrs. J'ai appelé aujourd'hui. Ils sont pas encore sûrs parce que chaque année, il faut assurer. En Israël, ils assurent. C'est pas toutes les épices qui viennent d'Israël qui disent Badatz, qui sont cachées le Pessah pour le cumin. Le cumin, cette année,
oui.
Vous êtes sûr? Comment?
Parce que j'ai le gros site qui les fait venir, c'est un Israël, je le connais, et il a déjà tout commandé, et ils lui ont dit qu'il est caché.
Ok, alors, je ne sais pas, je prends ta parole, mais moi, je n'ai pas dit. C'est ça. Le reste, ils sont moins difficiles. C'est le cumin, c'est le plus difficile. Le cumin. Moi, personnellement, je n'ai pas encore une réponse parce que j'ai appelé aujourd'hui. Ils sont pas encore sûrs. Il se peut que ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, je ne l'ai pas dit. Moi, je ne prends pas de responsabilité. Le safran, il n'a rien. C'est ça, le safran. S'il est naturel, il a rien. Non, parce qu'il y a des safrans qui sont imités. Le vrai, il n'a pas de problème. Top. Mais non, ce n'est pas les cours, je vous ai dit. Ça, c'est rien que pour une petite parenthèse avant le cours. Mais le vrai cours, c'est pour la cachérisation. La cachérisation de la cuisine. Après le cours, je vous donne. Oui, attendez. Maintenant, alors, là, on parle de la cachérisation. Maintenant, dans la cachérisation, la grande règle, il y a de grandes règles, il y a une grande règle plutôt, il y a de branches de la règle, et après il y a les règles individuelles à chaque compartiment et à chaque ustensile à part. La grande règle est la suivante. De la manière que l'ustensile a absorbé le hametz, c'est de la même manière qu'on doit le faire rejeter son hametz. Ça, c'est la grande règle. Maintenant, le sous-titre de ça, c'est qu'il y a trois manières à rejeter le hametz. Il y a la manière la plus rigoureuse et qui marche pour tout, c'est ce qu'on appelle l'iboun. L'iboun, c'est la torche. Non, la hagala, c'est le nom général. Le liboun, c'est une étape dans la Hagala. Le liboun, c'est prendre une torche et cachériser. Ça, cette méthode marche pour tout, sans garantie. Ça veut dire, si vous brûlez quelque chose, c'est votre garantie. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui déjà, ils ont brûlé déjà des choses. J'explique. Oui, j'explique. Il y a trois manières de le faire. Mais ce n'est pas toutes les manières qui sont adéquates pour n'importe quoi. Mais j'explique que le liboun, il est bon pour tout. Seulement, il faut savoir sur quoi le faire. C'est ça? Maintenant, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le iroui. L'irouille, c'est de prendre de l'eau bouillante. Et quand on parle de l'eau bouillante, que vous voyez encore que ça boue. Ça veut dire que, si je donne l'exemple du bouilloire, quand vous avez un bouilloire qui est connecté et branché, et quand ça boue, il ne faut pas qu'il arrête à bouillir, et 3 minutes ou 4 minutes après, vous venez vous le versez. Tant qu'il boue, avant que la petite chose saute, vous l'attrapez et vous faites votre agala. Ça, c'est deux. On va expliquer plus. On va expliquer. On va expliquer. C'est ça? Maintenant, il y a la troisième qui est l'agala. L'agala, c'est quoi? C'est de prendre une marmite, de la remplir avec de l'eau, faire bouillir cette eau, et dans l'eau, on jettera des ustensiles qui ont besoin d'être cachérisés de telle manière. Et on va rentrer maintenant dans le détail. On va expliquer. On va expliquer. Maintenant,
une marmite de
tout l'année, tout le jour. Mais on va expliquer. Maintenant, d'abord, avant de rentrer en détail, comment cachériser, quoi nécessite quoi? Qui veut dire, qu'est-ce que je fais avec l'iboun? Qu'est-ce que je fais avec irouï? Et qu'est-ce que je fais avec la agala? Alors, le liboun qui est la torche, je le fais avec toute chose qui a été en contact direct avec le feu sans intermédiaire d'un liquide. Par exemple, des brochettes. C'est ça? Ils sont sur le barbecue lui-même, la surface de barbecue elle-même. C'est ça? Eux, ils touchent le feu, mais ils n'ont pas l'intermédiaire de liquide. Il y a un peu de sauce qui s'échappe de là, mais ce n'est pas un liquide. Liquide, quand on parle de liquide, ça veut dire de l'eau. C'est ça? Ce n'est pas une soupe non plus. C'est ça? Alors, tout ce qui a été directement sur le feu, alors on va donner un exemple. Les brochettes, la grille du barbecue, la grille qui se trouve à l'intérieur du four, c'est ça? Il y a une grille là-bas, ça aussi. Ou le petit, non, bon, ça c'est pas, il vaut même pas le petit toaster. Si vous avez un toaster où vous faites pas de toast, des choses comme ça, ça. Il y en a qui utilisent ça pour cuire des aliments. Bon. Ça c'est des choses où vous allez faire le liboun. Maintenant, le liboun jusqu'à quel point? Normalement, il faut le voir à presque sortir des étincelles. Il faut que ce soit rouge. Ou au moins, si on aurait pris une paille en bois, c'est ça? Et on l'aurait introduit sur la chose qui a été bien chauffée. Est-ce que ça aurait brûlé ou pas? Si ça aurait pris feu, c'est assez comme agala. Maintenant, est-ce que le barbecue est cachérisable? Oui. Si vous voulez faire la seule chose, il faudra changer tout le braise, le pierre, c'est ça, le briquet ou ce qu'il y a, ou il y en a qui utilisent carrément de braise, de charbon, c'est ça? Alors tout ça, ça doit être changé. Ça doit être bien nettoyé, et après vous faites agala par-dessus la grille. Maintenant, une règle primordiale, toute chose qui doit passer l'agala, sauf le liboun, toute chose qui doit passer à n'importe quel type d'agala, sauf liboun, doit être reposée 24 heures sans être utilisée et doit être propre, à 100%. C'est-à-dire, doit être bien lavé, reposer 24 heures, 24 heures, c'est de 24 heures complètes, pas la nuit, pas y passer la nuit. Et une fois que vous avez fait ces deux conditions, là vous pouvez faire agala ou irouï. L'iboun n'a pas besoin de cela. C'est pour cela, si vous faites marcher votre four auto-nettoyant, il n'a pas besoin d'être reposé 24 heures. Tout ce que vous faites, vous le nettoyez bien, même pas avec des produits. Je crois que c'est même interdit d'utiliser des produits quand vous faites l'auto-nettoyant. Vous devez nettoyer bien, qu'il n'y ait pas de résidus de sauce ou de choses comme ça, bien frotter, bien enlever. Une fois que vous l'avez fait, sans produit, sans rien, vous me faites marcher le auto-nettoyant pour au moins 2 à 3 heures. 3 heures de préférence, mais pas pour une heure. Parce que, comment? Je crois que ça va pour une heure, ça ne donne rien presque. Ça ne donne rien. À moins que vous avez un four. Oui, cette semaine, une femme m'a dit qu'elle a un cycle de 1 heure. Elle a un cycle de 1 heure. Alors elle avait 1 heure, mais après qu'elle a fait, le four était noir comme avant. Ça veut dire que ça n'a pas donné l'allure comme quoi il a été cachérisé. C'est ça? Alors il faut vraiment laisser 2 ou 3 heures, de bonnes 3 heures pour la gala de l'intérieur. Pourquoi? Parce que le four à l'intérieur, c'est sans intermédiaire de liquide. Alors là, il faut. Maintenant, si vous faites le auto-nettoyant, normalement, vous pouvez joindre avec l'auto-nettoyant n'importe quoi, mais il faut savoir, il y a des choses qui ne vont pas toujours dans le four. Il y a des choses qui noircissent. Il y a des grilles ou des choses qui noircissent dans le four. Alors c'est risqué un peu. Alors on va expliquer les autres méthodes et c'est à vous à la fin de choisir quelle méthode vous voulez choisir. Non, il faut le cachériser. Absolument la cachériser. Ça. Maintenant, ça c'est le liboun. Ça c'est le liboun. Deuxième chose, c'est le iroui. Iroui c'est quoi? De l'eau chaude bouillante, que je verse par-dessus de quelque chose qui a touché une source de chaleur. J'explique. Un plateau à servir. Je mets de la viande là-dessus. De la viande ou... Je mets du blé, de la dafina là-dessus. Il n'y avait pas de liquide, il n'y avait rien. J'ai pris de la marmite, je mets sur un plateau. Ce plateau, il n'y avait pas de l'eau, ça, mais il y avait quand même la sauce de grains de blé qui a touché le plateau. Ce plateau, comment il a absorbé le chametz? Il est tombé par-dessus. Le chametz est tombé là-dessus. Et là, maintenant, il faut que je le cachérise. Comment je le cachérise? Je prends de l'eau bouillante et je verse par-dessus. Encore la règle est bien nettoyée, 24 heures reposée, et rien qu'après, vous faites passer ce processus de iroui. Un plateau de Shabbat, le plateau du pain, s'il n'est pas en bois, il y en a de ceux-là qui sont en métal. Vous pouvez le faire. Ça, les surfaces de la cuisine, des fois, il arrive de mettre du chametz chaud là-dessus, c'est ça? Maintenant, il faut faire attention. Il y a des surfaces qui sont en mélamine, c'est bon. Rien n'arrive. La seule chose, il faut voir s'il n'y a pas de crack. Mais les surfaces, on va rentrer après. Je donne rien que certains exemples. Tout le détail, après, on va rentrer. Mais le liboun, c'est quelque chose qui a touché à chaud, qui est tombé là-dessus, sans intermédiaire de liquide. Alors, je le cachérise en jetant de l'eau bouillante. Troisième chose, toute autre chose, l'agala. L'agala, c'est quoi? L'agala, c'est de prendre, par exemple, le couvercle, qui touche des aliments chauds. Le Shabbat, il touche la dafina, il y a du blé. En semaine, il y a des pâtes qui sont chaudes, c'est ça? Il y a plein de choses qui sont chaudes. Alors, tu prends une marmite qui s'est reposée 24 heures, tu la remplis de l'eau et tu commences à la faire bouillir. Il faut couvrir pour que ça boue plus vite. Et une fois que ça commence à bouillir, vous jetez dedans votre couvercle, le couteau, la fourchette. Maintenant, il faut que ça soit fait d'une seule pièce. De couvercles qui sont faits de deux pièces, par exemple la manche en plastique et le bout en métal, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas rentrer là où la jointe entre les deux, c'est très difficile à faire. On ne cachérise pas de choses qui sont en deux morceaux, on ne cachérise que ceux qui sont en un seul morceau. Maintenant. Non, c'est pas bon parce qu'il faut qu'on soit capable de détacher les deux pièces. S'ils sont, ça veut dire ils sont détachables, mais nous ne pouvons pas le faire. Ils sont en deux pièces, il ne faut pas le cachériser. De préférence, même si c'est du métal, parce qu'il faut normalement ouvrir pour cachériser. Ça. Maintenant, avec ça, vous pouvez cachériser même des marmites. C'est ça. Seulement dans la marmite, il faut toujours enlever les manches. Il faut enlever les manches. Il faut dévisser. Oui, ils sont cachérisables. Pour nous, les séfarades, c'est cachérisable. Oui. Alors, il faut détacher le manche en plastique. Il faut dévisser d'abord le manche en plastique. Il faut bien nettoyer. Vous allez vous étonner combien de chametz il y a entre le manche et la marmite. Il y a plein de jus, il y a plein de choses qui glissent. C'est ça? Et quand vous ouvrez, vous trouvez toutes ces saletés. Vous dites, waouh, toute l'année, c'était comme ça. Je n'ai même pas remarqué. Mais ce n'est pas remarquable. Mais c'est du chametz qu'il faut bien nettoyer. Maintenant, si c'est deux fois, il y a des marmites à un seul morceau. Ils sont. Même les manches sont en métal. C'est ça? Alors, dans ce cas, il n'y a rien à faire. Vous le cachérisez tel que ce. C'est à moins que vous voulez jeter un peu de l'eau bouillante sur le manche. À part ça, c'est cachérisé comme tel. Maintenant, vous pouvez faire beaucoup d'ustensiles, mais l'ustensile, il ne faut pas qu'il se touche. Il faut pas qu'il se touche. Ça veut dire, je ne peux pas jeter 10 fourchettes dans une marmite parce qu'ils vont se piler une sur l'autre. Et ils ne vont pas laisser l'eau pénétrer sur tout l'ustensile. Alors il faut jeter un, deux ou trois maximum à la fois pour qu'il y ait d'espace et que chacun se repose dans la marmite. Combien de temps? 2, 3, 4 secondes, pas plus. Vous enlevez avec une pince, c'est ça? Et vous continuez. Chaque fois qu'on cachérise quelque chose, il faut lui jeter de l'eau froide. C'est ça? Par exemple, on a dit que vous faites le liboum. Bon, liboum, pas besoin. Mais si vous faites la gala dans un couvercle, vous mettez une fourchette, vous la sortez, vous la rincez avec l'eau froide, vous mettez l'autre. Maintenant, C'est ça. Mais je vais expliquer. Une fois qu'on cachérise, il faut comprendre que le métal, il est froid. Et tu le jettes dans de l'eau bouillante chaude. Le froid refroidit le chaud. Ce qui va faire qu'avec le temps, cette eau va refroidir. Vous allez plus voir l'ébullition sur l'eau. Alors si après 10 ou 15 fourchettes ou n'importe quoi, l'eau est reposée, ça veut dire que vous voyez que c'est chaud, mais vous ne voyez pas d'ébullition, il faut arrêter. Il faut recouvrir la marmite et que ça boue de nouveau et recommencer. Mais il ne faut pas aller trop parce qu'il faut absolument que l'eau soit bouillante. L'eau soit bouillante. C'est ça, en constante ébullition. Maintenant, ça c'est pour le couvercle ou n'importe quoi qui peut rentrer. Maintenant, une marmite aussi peut être cachérisée là-dedans. Comment je cachérise? C'est sûr qu'une marmite, à moins que j'ai une grande marmite, que je puisse rentrer une plus petite, je peux la rentrer au complet. Mais sinon, ça peut se cachériser sur 2 ou 3 fois. Ça veut dire que je prends un bout de la marmite, je le rentre, je le trempe, et après je le tourne sur l'autre côté, et s'il faut une troisième fois, sur l'autre côté. Il faut faire attention, jamais jeter un ustensile qui est un contenant, qui peut contenir, à l'envers. Qui veut dire par exemple un verre. Si vous avez un verre en métal, on va dire, vous pouvez pas le rentrer sur le, ça veut dire le la base au haut et la rentrer en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air qui rentre et cet air empêche une certaine place d'être cachérisée. C'est la même chose pour le tevilat kelim. Quand vous emmenez des ustensiles en mikvé, quand vous êtes des verres ou n'importe quoi qui a une peut contenir, jamais le mettre à l'envers parce qu'il y a une bulle d'air qui rentre et cette bulle d'air empêche que l'eau va partout. Il y a un endroit qui ne va pas être, alors c'est pas cachère. Alors il faudra toujours le renverser pour que l'eau pénètre au complet et après, comme vous voulez, mais que l'eau pénètre pas jamais à l'envers. Ça c'est pour ce qu'on appelle la hag'ala. Ça c'est pour la hag'ala. Maintenant, ça c'est les 3 étapes. Liboun, Irouï, hag'ala, 24 heures. Reposer, sauf le liboun, pas besoin de reposer 24 heures, vous pouvez le faire directement. Et chaque ustensile, dépendamment de la manière qu'il a absorbé son hametz, il rejettera son hametz. Et toujours des ustensiles qui sont faits d'une seule pièce, et jamais des ustensiles qui sont faits de 2 pièces, à moins qu'ils soient démontables, on va le détacher et on va faire la hagala. Maintenant, on va essayer de rentrer plus en détail. Je vous demanderai pour 5 minutes ou 10 minutes de ne pas poser des questions. Rien qu'on va passer rapidement, si vous avez des questions après, avec grand plaisir. Maintenant, la plus grande chose dans la cuisine qui a besoin d'une grande hagala, c'est la cuisinière. Parce que la cuisinière, elle absorbe toute la journée du hametz. Chaque jour, elle absorbe du hametz. Maintenant, si vous avez une auto-nettoyante, déjà vous avez sauvé 75% du problème. C'est ça, l'auto-nettoyant, bien nettoyé, vous rentrez. La seule chose, n'oubliez pas, il y a 2 endroits. D'abord, il faut sortir tout l'appareil ménager, non, tout l'appareil lui-même, ça veut dire toute la cuisinière, il faut la sortir de sa place. Vous allez vous étonner combien de hametz il y a qui sont tombés de côté et en arrière de la cuisinière, à moins qu'ils l'ont encastré, ceux qui sont encastrés, mais il n'y a pas de four dedans. Mais les autres qui rentrent, ça veut dire qu'ils rentrent dans le mur, il faut les enlever et nettoyer tout le hametz qu'il y a alentour. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de cuisinières que l'eau se détache, pas au complet, il s'ouvre. Vous allez vous étonner combien de pâtes et de choses vous allez trouver à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire la hag'ala, pas besoin de faire la hag'ala, mais au moins liquider tout ce qui est là-bas, tout le hametz. Il y a plein de choses là qui sont là-bas. Ouvrez si c'est possible. C'est pas tous, mais la majorité s'ouvre. La majorité s'ouvre. Vous allez ouvrir et enlever tout ce qui est possible de enlever. On va expliquer. Maintenant, ça on est dans la cuisinière. Maintenant, ça c'est pour l'intérieur. Si vous n'avez pas un auto-nettoyant, c'est ça, c'est pas un four auto-nettoyant, il faut le faire soi-même. Comment? Alors, on le nettoie bien. Là, on le nettoie avec des produits, Easy Off, avec des produits. On le nettoie bien, on le laisse reposer 24 heures. On le met au maximum. 500, je crois, c'est le maximum qu'il y a, c'est 500, pour au moins une heure. Pour qu'il brûle bien tout ce qu'il y a. Maintenant, la seule chose qui reste après, c'est la grille. Cette grille, il y a 2 manières à le faire. Ou de prendre une torche et passer sur le gris. C'est ça qui est un travail un peu dur, mais il faut le faire. Une chose. Sinon, vous avez le choix de prendre la grille après qu'elle, ça veut dire qu'elle a été une heure au four avec la chaleur qu'il y avait au four. Tout est, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de traces épaisses, il ne faut pas avoir de traces épaisses noires. S'il y a des traces, s'il y a des taches noires, ce n'est pas grave. Mais s'il y a des traces d'épaisse noire, ça c'est grave, il faut le frotter, il faut le gratter, il faut l'enlever. Une fois que tout a été gratté, enlevé, même s'il y a des taches qui sont, ça veut dire qu'ils sont, on le voit, incrustés si on veut, mais ils ne sont pas enlevables, on peut recouvrir le tout avec du papier aluminium et l'utiliser de telle manière durant toute la fête. Ça c'est une possibilité 2. Possibilité numéro 3, si vous connaissez quelqu'un qui a une four auto-nettoyant, vous enlevez la grille après qu'elle a été bien nettoyée, vous lui donnez. Et une fois qu'il fait son cycle d'auto-nettoyage pour lui-même, il peut faire passer la vôtre, mais sachez que dans certaines compagnies, ça noircit. Ça noircit. Alors à moins que ça vous regarde pas si ça noircit un peu, c'est pas grave, mais dans certaines, ça, à force, ça va se noircir. Ou, si vous allez chez Sears ou la baie de compagnie comme ça, des fois ils ont des grilles qui se vendent séparément. Et vous pouvez l'acheter, la seule chose, vous le passez au mikvé. Vous le passez au mikvé et vous le mettez dans votre four parce que des fois, il arrive à des gens de mettre les aliments directement sur cette grille. Alors, il faut le passer au mikvé. Maintenant, ça c'est pour l'intérieur du four. Ce qu'il en est pour le haut. Dans le haut, nous avons trois types. Il y a trois types de cuisinières. Ça veut dire il y a l'halogène, il y a l'électrique, il y a le gaz. Le plus facile, c'est le gaz. C'est quoi le plus facile que le gaz? Le gaz, vous enlevez tout le bec ou le petit chose qui contient la base, vous les enlevez, vous nettoyez bien, vous jetez de l'eau bouillante après que ça n'a pas été utilisé 24 heures. Il ne faut pas l'utiliser 24 heures. Vous jetez un peu de l'eau bouillante, c'est ça, vous nettoyez, vous remettez le tout, c'est ça, vous allumez au maximum, vous allumez le feu au maximum pour 15 ou 20 minutes pour que ça brûle bien tout ce qu'il y a et c'est cachère. Ça, c'est la plus facile. Le gaz, c'est le plus facile. Après, il y a l'électrique. L'électrique aussi, il faut enlever les serpentins. Il faut les enlever, ça se détache. Mais certaines marques, ils sont incrustés dans le haut. Mais plusieurs, ils se détachent. Vous enlevez les serpentins, vous nettoyez le bec. À quoi il y a des aliments qui s'attrapent. C'est ça, l'euro. Le métal blanc. Vous mettez du papier neuf aluminium. Vous couvrez avec le papier. Vous remettez le serpentin. Vous l'allumez pour 20 minutes. Et là, ça a été. Mais encore, la surface doit être versée avec de l'eau bouillante après que la surface a reposé 24 heures. On arrive, c'est la troisième. On arrive. Les questions, ok, je n'arrive pas. Oui, c'est vrai. Dans le magasin d'un dollar, vous pouvez trouver la petite cuvette. C'est ça, vous pouvez trouver tout neuf. C'est ça, ou à l'aluminium, ou des fois il y a des autres qu'on peut rentrer. Bon, la plus difficile et la plus problématique, c'est celle-là qui est en céramique. C'est ça, pourquoi? Alors, vous savez tous la règle, que l'argile ne se cachérise pas. Le seran, ce verre spécial, qui peut monter à 1000 degrés et plus, rien ne lui est arrivé, il peut recevoir des coups, il est très résistant comme verre. Ça, c'est plus que du verre trempé. Mais le problème, sa composition, c'est du verre avec de l'argile. C'est pour ça qu'il est résistant. Parce que l'argile, c'est lui qui lui donne la force de ne pas éclater. À cause de cela, il y a des décisionnaires qui sont dans l'opinion que ça c'est pas cachérisable. Non seulement que c'est pas cachérisable, ils sont problématiques pour le reste de l'année. Attendez, je vous dis tout, comme ça. Pourquoi? Selon certains décisionnaires, ils ne cachérisent pas pour Pessah, mais ils ne cachérisent pas pour toute l'année. Moi-même, j'ai ce même four. C'est ça. Mais je vous explique toutes les opinions. Pourquoi? Non, j'explique. C'est une opinion qui dit que c'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que c'est en argile. Pour eux, le problème est pour le reste de l'année quand il y a de la viande qui se verse par-dessus et le lait, dans un autre cas, qui se verse par-dessus. Là, il a absorbé du lait et de la viande et l'argile n'est pas cachérisable quand il a touché les deux aliments. Même si c'est un après l'autre. Pour eux, pour ce décisionnaire, il vaut mieux de ne pas acheter ce four du tout. Le problème est que sur le marché, les autres commencent à disparaître, sauf le gaz, c'est le serin qui remplace le tout. Alors il faut trouver la manière de le cachériser et le permettre. Alors on explique. Alors une petite recherche donne, quand on veut interdire quelque chose, c'est ça? Parce qu'il a touché quelque chose de chaud. C'est-à-dire, quand quelqu'un touche quelque chose, a touché de la viande, ou ensuite après il a touché du lait, c'est quand il a touché les deux aliments quand ils étaient chauds. Faites l'expérience vous-même, en revenant ce soir ou demain, ouvrez au maximum le plus grand. La radiante la plus grande, ouvrez-la, touchez alentour, jusqu'à près d'un millimètre, c'est froid, complètement froid. Toute la surface est froide. C'est ça? Touchez, vous avez, c'est froid, soit. Quand vous arrivez un millimètre avant la radiante, c'est là que ça commence à chauffer. Alors en vérité, qu'est-ce qui est la partie la plus chaude? C'est le feu. Le feu lui-même. Mais le feu lui-même, c'est cachérisable. Le feu lui-même est cachérisable. Même s'il est en argile, c'est du feu. Il n'y a pas quelque chose, c'est comme l'iboun. Le liboun a dit, il cachérise tout. C'est ça? Vous savez pourquoi on ne fait pas le liboun pour l'argile? Parce que l'argile va éclater. Mais dans ce cas, cette argile n'éclate pas avec le feu. C'est pour ça qu'il y a des décisionnaires qui permettent. Maintenant, la seule chose qu'il faut s'en occuper maintenant, c'est ce 1 mm qui est à l'entour de la radiante. Lui, il est en risque parce qu'il est chaud, mais pas assez chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui jeter de l'eau bouillante. Alors, comment on fait? On nettoie le haut, c'est facile, il y a des produits qui nettoient vraiment clair, c'est comme, ça devient comme du verre. Vraiment, il faut que ça soit sans trace. Vraiment, il faut que ça soit bien. Commencez à maintenant le préparer parce que de le faire sur une journée, c'est difficile. Des fois, il y a des tâches qui sont dures. Il faut le nettoyer quelques jours jusqu'à qu'il devienne comme neuf. Là, après cela, il se repose 24 heures sans être utilisé. Et après cela, vous allez ouvrir le 4. Ou deux à la fois si vous voulez, mais le 4 c'est pas, si vous avez une bonne hôte avec une fan, vous ouvrez le 4 et jusqu'à que vous voyez que c'est rouge, 10 minutes jusqu'à que c'est rouge. Une fois que c'est bien rouge, vous fermez tous les boutons et avec de l'eau qui sont en train de bouillir, dès qu'il bout, vous versez par dessus. Ça va pas éclater parce que ce verre peut monter plus que 1000 degrés. Il va pas éclater. Maintenant, vous jetez de l'eau chaude partout. Surtout, alentour de radiante. C'est ça? Alentour de radiante, vous jetez, en cas qu'il y a du hametz, ça va le brûler. Cette étape doit se répéter 3 fois. Qui veut dire? Je jette de l'eau chaude, bouillante. C'est ça? Je nettoie. Je mets un peu à refroidir. J'ouvre encore le bouton. Je ferme après 10 minutes. Je jette de l'eau chaude. Je nettoie. J'attends un peu. Ça refroidit. Et je le fais 3e fois. Ça, c'est cette manière que peut le cachériser. Même si c'est en argile, cette manière peut le cachériser de ce type de four. Bon, comment? 3 fois. Ça, rouge, ça monte très vite. Ça lui prend 5 minutes, mais laissez 10 minutes pour bien brûler. Après cela, vous nettoyez et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Bon, ça c'est pour la cuisinière. Maintenant, dès qu'on parle de la cuisinière, n'oubliez pas les hôtes. La hôte, c'est ça, la hôte. Le filtre, il est jaune, c'est sûr qu'il est jaune. S'il est bon, il doit être jaune. S'il n'est pas jaune, ça veut dire qu'il n'a rien fait durant l'année, c'est ça? Oh, vous avez... Mais c'est sûr qu'il est jaune, c'est ça? Alors, prenez-le, il y a 2 manières. Ou vous l'achetez chez Rona, ils sont pas chers, ça se remplace. Non, il faut pas le couvrir, parce que vous pouvez pas l'utiliser. Alors, la meilleure des choses, c'est prendre une cuvette, mettre du Easy Off avec de l'eau et laisser tremper. Ça va, ou l'Easy Off directement. Et ça va le nettoyer. S'il ne s'enlève pas, vous aurez un problème. Couvrez-le et laissez-le durant la fête, vous ne l'utilisez pas. Maintenant, le micro-ondes. Alors, certains n'acceptent pas la cachération du micro-ondes durant Pessah. C'est ça? Il y en a qui permettent. Moi, j'ai écrit dans le livret ceux qui permettent. Mais il y en a qui sont plus méticuleux et plus stricts et ils ne laissent pas. Pourquoi? Parce que selon Rav Avadia Yosef, pour après avoir mis le verre avec du savon dans le micro-ondes et le verre s'est évaporé, l'eau s'est évaporée au complet, il faudra couvrir à l'intérieur du micro-ondes avec du papier, carton. du carton, sauf en arrière, là où il y a les fans, il faut découper. Ça, c'est le point de Rava Yosef. Si on arrive déjà à faire ça, il vaut mieux d'acheter ou un micro, un neuf, ou rien, ou pas utiliser. Mais il y en a qui sont, ils peuvent pas s'en passer sans le micro-ondes. Alors, dans ce cas, qui cachérise la manière que ça a été d'enlever avec de l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'évapore avec du savon. Jusqu'à que l'eau s'évapore au complet, et là, il est cachérisable. Ceci est valable aussi pour le reste de l'année. Les éviers, il y a deux types d'éviers. Il y a l'évier en faïence, qui est l'évier blanc, c'est ça, qui est en pierre, c'est comme une pierre, c'est ça. Il y a le stainless steel. Stainless steel, c'est le plus facile. C'est comme une marmite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le repose 24 heures. Maintenant, quand on dit de reposer un évier 24 heures, c'est un peu difficile de ne pas avoir un évier sans utiliser. Maintenant, si vous avez deux côtés, c'est facile. Mais si vous avez un évier qui est divisé en deux, c'est difficile un peu de ne pas utiliser. La seule chose, essayez de ne pas utiliser avec de l'eau chaude. Alors, mettez un verre par-dessus la petite manche de l'eau chaude. Couvrez-la, comme ça, personne ne touche l'eau chaude. Et vous pouvez continuer à utiliser de l'eau froide. Même si vous utilisez avec de l'eau froide, durant 24 heures, c'est considéré comme si votre évier en stainless steel avait reposé. C'est la même chose pour la faïence. Si vous arrivez de ne pas utiliser du tout, c'est bien. Sinon, utilisez que avec de l'eau froide, mais on ne peut pas avoir des erreurs. Il ne faut pas avoir une erreur. Ah, c'est arrivé. Non, c'est pour ça que je dis, il faut couvrir la petite manche de l'eau chaude. Il faut la couvrir pour qu'il n'y aura pas d'erreur là-dedans. C'est ça? Comment? Ah, vous avez une manche, c'est encore... Comment? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, alors on continue pour les... Vous nous dites après le prochain cours, on va parler de ça. Bon, alors pour les éviers. Alors, si c'est en stainless steel, facile. Vous nettoyez bien, vous laissez reposer, ou vous utilisez que avec de l'eau froide 24 heures, et ensuite, vous prenez un bouilloire. Un bouilloire, il n'est pas suffisant. C'est sûr que ça va nécessaire d'utiliser au moins deux. Alors, vous faites bouillir, parce qu'un bouilloire, qu'est-ce qu'il contient? Un litre, 0.8, 1,5 litre, c'est rien du tout, pour tout un évier qui a utilisé le khamet toute l'année. Alors, vous faites bouillir de l'eau, et vous versez tout alentour de l'évier, incluant le robinet lui-même, incluant le manche. C'est ça? Vous enlevez la petite chose qui se trouve autour, ça, vous la mettez dans l'évier, vous versez de l'eau chaude là-dessus. S'il faut bouillir un autre, vous faites bouillir un autre. Une fois que ça a été cachérisé, vous rincez avec de l'eau froide. Après, si vous avez deux éviers, un à côté de l'autre, vous faites le même processus pour le deuxième. Maintenant, il y en a qui jettent avant ou après la gala, la javel. En cas qu'il y a du hametz dans le tuyau, c'est ça où est-ce que l'eau passe, s'il y a du hametz, il est abîmé, il va pas, en cas qu'il monte, il va pas interdire l'évier qui vient d'être cachérisé. Ça, c'est l'évier en inox. Maintenant, la faïence, selon le séfarad seulement, ils acceptent la cachérisation. Les ashkenazes n'acceptent pas. C'est pour ça que les ashkenazes achètent des becs spéciales avec des trous. Après qu'ils cachérisent, ils mettent une bec dans le... Pour nous, c'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire comme mesure de strictesse, d'avoir la rembracha, mais c'est pas obligatoire. On peut rien crincer bien, comme on vient d'expliquer. Comment? Ils se vendent sur Van Horn. Il y a un quincaillerie là-bas. Il est juif. Lui, il a tout. Il a de métal pour couvrir le haut du four. Il a de tout. Vous allez chez lui et vous pouvez le faire. Au bouillant. Bon, lave-vaisselle. Bon, il y a un nouveau lave-vaisselle qui est sur le marché, qui va rendre beaucoup de femmes contentes. C'est ça? Alors, normalement, le lave-vaisselle, on a expliqué plusieurs années, on ne peut pas l'utiliser pour Pessah. De la simple raison, pourquoi? Parce que dans le filtre, il y a plein de khametz. À moins que vous apportez la compagnie qui enlève le filtre et nettoie le filtre et remet à sa place, ça, on peut le cachériser. Comment on le nettoie bien? On l'utilise pas à 24 heures. On le remplit avec du savon. On fait passer un cycle ou deux cycles à vide. Une fois qu'il a cachérisé, on peut ranger la vaisselle, mais pas le faire la vaisselle durant Yom Tov. Mais maintenant, ils ont un lave-vaisselle avec broyeur. C'est ça? Oui. Toutes les compagnies presque, ils ont ça. Alors, c'est nouveau. Et là, le broyeur, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lavez, il ne reste pas dans les fils. Tout est broyé. Et là, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez l'utiliser même durant la fête. Surtout si l'on stèle un style, vous avez beaucoup moins de problèmes. Non, vous enlevez le tout. Vous enlevez le tout, vous nettoyez bien, et après... Comment? Non, non, le broyeur, il broie tout. Il broie tout, il reste rien. C'est pour ça, vous nettoyez bien, enlevez tout ce que vous voyez. Mais c'est facile, c'est son, vous voyez tout ce qu'il y a. Tandis que les autres, le khamet se trouve à l'intérieur du fil qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas voir. Comment? Non, franche pas. Comme l'autre, seulement celui-là est utilisable, les autres ne sont pas utilisables. Bon, la dernière chose pour ce soir, il y aura encore des autres, mais pas tout. La dernière chose, c'est le comptoir. Alors, il y a des comptoirs en pierre, il y a des comptoirs en inox, il y a des comptoirs en mélamine, c'est ça, en granit, en tout. Alors, on va dire, si c'est l'inox, c'est le plus facile. Vous nettoyez bien, vous jetez de l'eau bouillante. C'est ça? Vous n'utilisez pas à chaud. Vous pouvez mettre des aliments, mais pas à chaud. Vous jetez de l'eau chaude partout. C'est cachérisable. Comment? Eau froide après. Eau froide après.
Le granit.
Le marbre. Tout ce qui est en pierre, ou le nouveau, il y a de nouveau là, qui s'appelle
Corian.
C'est ça? C'est comme une pierre. C'est une pierre plastique, je sais pas. C'est un plastique très résistant. Voilà. Au point que je demandais une fois, ils m'ont dit que même des microbes ne peuvent pas pénétrer dedans. Des microbes. Ils sont faits, c'est antibactérien. À tel point ce plastique est fait. Ça, le microbe ne... Non. Alors c'est sûr qu'il n'absorbe pas. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie bien. Reposer 24 heures sans utiliser à chaud. Vous pouvez mettre vraiment pas à chaud. Et vous jetez de l'eau bouillante, tout de suite après de l'eau froide et c'est kasher. La mélamine, c'est le celle qui est plus problématique. Hein? Le granit pour le séfarade, il n'y a aucun problème, c'est de la pierre. La pierre est cachérisable. Hein? Même si il est poreux, de la manière qu'il absorbe, il va rejeter. De la manière qu'il absorbe. Qu'est-ce qu'on met? On ne met jamais du blé directement sur le granit? Est-ce qu'on met du blé sur la granit?
Je sais que ça pénètre.
On ne dit pas qu'il ne pénètre pas.
Il a changé de couleur parce que l'eau pénètre.
Oh, ça c'est différent. Il faut faire attention aux jointes. D'abord, pour l'année, mettez du bon silicone. Ça va vous enlever ce problème. Mais même n'importe quoi, que vous voyez des cracks, ou vous voyez des jointes qui sont un peu ouverts. Là-bas, il faut faire plus attention. C'est ça? Il faut maintenant, on explique. Le plus problématique, c'est le mélamine. Pourquoi? Parce que le mélamine, il a beaucoup de craques des fois. Des scratchs. Vous coupez quelque chose, ça fait un scratch sur la mélamine. Ce scratch-là, il peut se remplir avec du khamet. Ça dépend quelle profondeur ce scratch est. C'est ça? Alors, il faut faire attention. La mélamine, c'est cachérisable quand il est en bon état. Quand il est en bon état, ça veut dire qu'on voit qu'il est lisse, il est bien. On peut verser de l'eau chaude, de l'eau froide, il n'y a aucun problème. Quand il est scratché et quand on voit que le joint commence à s'ouvrir, vous faites la hagala, vous jetez de l'eau bouillante, mais après, il vaut mieux de le couvrir avec du papier collant. Surtout là où il y a des jointes, que si en cas il y a du khamès qui ne remonte pas durant Pessah. Vous pouvez mettre du papier aluminium, il y a qui mettent du papier aluminium, le problème avec le papier aluminium, il s'enlève. Il se déchire, il s'enlève, c'est pas pratique. À moins que vous le collez bien comme il faut, mais le papier, il y a des bons papiers collants. Vous le mettez, ça reste, et après, ça s'enlève. Il y a des papiers collants, il faut faire attention. Vous collez après, décoller, c'est toute une histoire. Il y a des bons qui sont bien. Ou, vous pouvez acheter de la. Comment il s'appelle?
De plastique.
Non, ceux qui mettent. C'est pas de la mélamine, ce qu'ils mettent par terre. Linoléum. Vous pouvez acheter un morceau de linoléum, ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers, ils sont 10 dollars ou 15 dollars sur la rue Saint-Laurent. Il y a beaucoup de magasins de linoléum. Vous achetez un grand morceau, vous la découpez, Vous le mettez sur votre comptoir, vous le pliez un peu avec du scotch tape, il reste bien pour toute la fête, et là vous pouvez l'utiliser comme le... Comment ? Chez Rona, ils sont plus chers. Il vaut mieux acheter dans des magasins qui vendent de la tuile, et le linoleum, c'est beaucoup moins cher que Rona. Bon. Ah oui, c'est très bon. On va le vérifier. Bon, si vous avez des questions. Oui, vous pouvez faire morceau par morceau, mais le dernier morceau, il faudra le répéter un peu. Parce que c'est très difficile de se rappeler où je me suis arrêté. Alors, si ça prend un morceau par morceau, c'est un grand comptoir, oui. Mais assurez-vous de toucher un peu de l'autre côté de... Oui. Du four, oui. Le seran. Non, parce qu'il y a un produit spécial pour nettoyer. C'est pas Easy Off, c'est même pas. C'est un produit. Vous pouvez l'acheter chez Ronage, n'importe où. C'est un produit que pour ça. C'est un liquide blanc. C'est un liquide blanc. C'est ça. Ils disent tout déjà. Vous achetez le liquide. Oui, c'est... Oui, mais il est très... Oui. Bon. Ouais. Non, ça c'est électrique.
Alors, c'est pas permis le jour de fête.
Le jour de fête, c'est pas permis. Il faut prendre une allumette, ça veut dire une bougie.
Et de la bougie.
Exactement. Pas de. Parce que c'est électrique, ça. C'est pas permis. Ça, on va parler quand on va parler de la fête de Yom Tov. Quand on va parler de la loi de Yom Tov, on va parler de ça. Ça n'a rien à voir avec la Gala. Ça, c'est plutôt la loi de Yom Tov, on va parler de ça. Bon, alors la prochaine. Oui, dernière. Ah bon, pour le pierre. Bon, dernière halakha, on termine avec ça. Est-ce qu'il faut mettre de pierre dans l'évier?
Oui.
Ou dans des choses? Alors, non. C'est pas obligatoire, c'est une coutume. Les gens qui mettent des pierres, d'abord il faut chauffer ces pierres. Si vous avez il faut chauffer. Et pourquoi ils font ça? Ils disent que l'eau, quand elle boue, elle refroidit vite. Et la pierre, quand elle est chaude, elle maintient la chaleur. Ça, c'est une coutume. C'est une bonne coutume. Si vous l'avez continué, mais c'est pas obligatoire de le faire. C'est une bonne coutume. Alors, il y en a qui chauffent la pierre, ils mettent ça dans l'évier, ils versent l'eau chaude par-dessus. Et là, c'est vraiment chaud, ça fait même de la fumée, de la vapeur un peu. C'est bon de le faire, mais c'est pas obligatoire. La même chose pour la Gala, pour le bouvoir de Shabbat, toutes ces choses-là. C'est bien de le faire, mais on va voir, c'est pas obligatoire.